Bonjour à chacun. C'est un peu particulier pour moi de préparer cette prédication parce que c'est le dernier épisode de la série. Cette série, on l'a commencée le 25 mars 2018 et on l'a finie le 24 février 2019. Presque un an qu'on est ensemble et qu'on parcourt comme un voyage ce livre de l'Exode. Et en préparant cette prédication, c'était un peu comme quand on arrive à la fin d'une bonne série. On sait que les saisons avancent, on sait que c'est la dernière saison, on sait que les épisodes avancent, et c'est le dernier épisode. Il y aura d'autres saisons, d'autres séries, ne vous inquiétez pas. Ça fait 11 mois et plus de 30 épisodes qu'on passe ensemble, comme je l'ai dit, réparti sur 3 saisons. La première saison, c'était Dieu qui délivre son peuple d'Égypte. Dieu qui délivre son peuple d'Égypte en manifestant sa puissance, sa force et sa gloire. La deuxième saison, c'était Dieu qui fait alliance avec son peuple. On se souvient que Dieu s'est manifesté dans sa gloire au peuple et par l'intermédiaire de Moïse, donne sa loi au peuple et fait alliance avec lui. Et la troisième saison que nous finissons ce soir, c'est Dieu qui vient habiter dans toute sa gloire au milieu de son peuple. Et on avait donné comme titre à cette série entière, le Dieu de gloire se révèle à son peuple. Le Dieu de gloire se révèle à son peuple et on va voir ce matin la manière dont le livre s'achève avec la gloire de l'Éternel qui descend au milieu du peuple. Si vous avez une Bible, ouvrez-la en Exode 40. Je lis les deux premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. On est toujours au pied du mont Sinaï, on est toujours au pied de la montagne, et on est un an après la sortie d'Égypte. Et le premier jour du premier mois, Dieu demande à Moïse de dresser le tabernacle. Et ce jour-là, c'est un peu comme l'anniversaire de la sortie d'Égypte pour le peuple. Dieu avait dit en Exode 19, « Je vous ai fait venir à moi. Je vous ai fait venir à moi. » Dieu avait délivré le peuple pour venir habiter au milieu de lui. Et on a vu dans le livre de l'Exode que, en fait, le but du salut pour le peuple, c'est que Dieu soit au milieu d'eux. Et on avait vu dans tout le livre cet écho à nos propres vies où Dieu nous délivre pour être en relation avec nous. Dieu nous délivre pour que nous vivions devant sa face. Et une des questions qu'on s'était posées, c'était: mais comment être en relation avec un Dieu saint? Comment un peuple pécheur peut être en relation avec un Dieu saint? Et je vous invite, on va lire les 16 premiers versets d'Exode 40. L'Éternel parla à Moïse et dit: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu mettras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu placeras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre. Tu mettras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en oindras le tabernacle et tout ce qui s'y trouve. Tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras approcher Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras, tu le sanctifieras et il me servira en qualité de sacrificateur. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père et ils me serviront en qualité de sacrificateur. Cette onction leur assurera pour toujours le sacerdoce dans chaque génération. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ça fait plusieurs chapitres qu'on parle du tabernacle. Ça fait même beaucoup de chapitres où l'on parle du tabernacle. On avait lu entre les chapitres 25 et 31 les instructions pour la fabrication du tabernacle et de tous les ustensiles. On avait vu qu'il y avait une crise au sein du peuple au chapitre 32, où Moïse avait été obligé de redescendre de la montagne. Pourquoi ? À cause du veau d'or que s'était fabriqué le peuple. Mais l'alliance avait été rétablie et Dieu avait pardonné son peuple. Et au chapitre 35 à 39, la fabrication du tabernacle et des ustensiles. Et enfin ici, ce matin, nous lisons la construction du tabernacle et le placement des ustensiles. En fait, à quelque chose près, depuis le chapitre 25, toute la troisième saison de notre série ne parle que du tabernacle. Le tabernacle comme étant le moyen pour l'homme de venir à la rencontre de Dieu, ou plus précisément, la manière dont Dieu a choisi de venir à la rencontre de l'homme. Et entre les instructions et la fabrication, il y a l'épisode du veau d'or. Et ça a été un moment fort dans notre série, l'occasion de nous rappeler encore et encore, après tous les épisodes de rébellion du peuple, que la fidélité de Dieu est plus grande que l'infidélité du peuple. Que Dieu tient parole, que Dieu accomplit ses promesses, et qu'il le fait en vertu de sa fidélité et pas à cause de notre fidélité. Il y a beaucoup de répétitions, peut-être vous l'avez vu quand vous l'avez lu, peut-être vous l'avez entendu quand nous l'avons prêché. En fait, c'est comme si on répétait tout le temps les mêmes choses. Et le texte est assez similaire. Des fois, on a l'impression que Moïse, il a fait un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller sur l'ordinateur. Et je pense qu'il y a trois raisons de répéter. La première raison, c'est parce que c'est important. La deuxième raison, c'est parce que c'est important. Et la troisième raison, c'est parce que c'est important. En fait, Moïse suit les instructions à la lettre et les instructions sont répétées encore et encore. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui décide comment on s'approche de lui. Ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans tout le livre de l'Exode. Et un peu plus loin, je ne vais pas lire les versets 17 à 32, mais après ces instructions, Moïse dresse le tabernacle. Et il y a un détail en fait. Après les instructions du début du chapitre, Moïse fait ce que Dieu avait demandé. Et à chaque fois, il y a un refrain qui revient, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Encore et encore et encore. Dieu décide par sa parole comment on s'approche de lui. Et nous, ça peut nous sembler répétitif. Mais en fait, c'est une question de vie ou de mort. Si on lit la suite dans Lévitique, en fait, Exode 40 s'arrête un peu en pointillé. Parce que dans les instructions qu'on vient de lire, il parle de l'assemblage, il parle de l'onction du tabernacle. Or, dans Exode 40, on ne parle pas de l'onction du tabernacle. L'onction du tabernacle viendra plus tard, quelques chapitres après dans Lévitique. Le tabernacle est oint, les sacrifices sont faits. Dieu appelle les sacrificateurs à entrer dans le tabernacle. Et là, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, apportent un feu étranger sur l'autel. Ils sont frappés de mort. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'a dit Dieu. Et on voit dans l'Exode que c'est la parole de Dieu qui nous permet de nous approcher de lui. Et quelque chose qu'on a vu dans l'Exode, en le replaçant dans la grande histoire de la Bible, c'est la manière dont nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte. La manière dont nous, par le sacrifice de Christ, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Paul nous dit en Éphésiens, « Nous avons par la foi, en Jésus-Christ, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » La liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Verset 33, je lis. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. L'ouvrage est achevé à ce verset 32. Mais il manque l'ingrédient le plus important du tabernacle. Il manque la présence de Dieu. Et Moïse pouvait suivre toutes les instructions de Dieu pour la construction du tabernacle. Seul Dieu pouvait s'approcher et descendre dans sa gloire. Et je voudrais lire les versets 34 à 38. Et on va passer plus de temps dans ces derniers versets-là du livre de l'Exode. Les versets 34 à 38 du chapitre 40. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée demeurait sur elle, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leurs étapes. J'ai présenté le temps que l'on a passé dans le livre de l'Exode comme une série découpée en épisodes. Mais si on devait le présenter comme un film, si on devait faire un film à partir du livre de l'Exode, sur l'affiche, il y aurait un seul nom. Il y aurait un seul nom en gros tout en haut, ce serait celui de Dieu. Peut-être qu'en bas, il y aurait les noms de Moïse, d'Aaron, quelques autres noms. Mais c'est Dieu le personnage principal du livre de l'Exode. Et en parcourant le livre, on a vu comment notre connaissance de Dieu s'est approfondie. On a vu sa fidélité au début du livre, où il se souvient de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et cette promesse qu'il avait faite, c'est ce qui l'a poussé. Et c'est pour ça qu'il a entendu les cris de son peuple. On a vu aussi sa justice quand il a envoyé les plaies aux Égyptiens. On a vu son amour quand il a gardé son alliance avec le peuple, alors que le peuple lui a désobéi. On a vu sa providence quand il a guidé le peuple et lui a donné à manger dans le désert. On a vu sa vérité quand il a donné sa loi sur la montagne. On a vu aussi sa miséricorde quand Dieu rachète les péchés de son peuple. On a vu sa sainteté quand Dieu les met à part pour son service. Et enfin, on voit ici sa présence quand il remplit le tabernacle. Par deux reprises, le texte nous dit « La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle ». Quelques chapitres auparavant, Dieu avait dit « Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel ». Leur Dieu qui les ait fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Et Dieu est là, à la fin du livre. Dieu descend au milieu de son peuple, il vient habiter au milieu de lui, et on voit que la promesse est accomplie, que Dieu a délivré son peuple, qu'il a fait alliance avec lui, et qu'il vient habiter au milieu de lui. Et il y a un mot qui revient encore et encore et encore dans ce passage, c'est la nuée de l'Éternel. Et on a un parallèle très fort dans le passage entre l'épisode en Exode 24. Je lis « La nuée couvrit la montagne, la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. » Et maintenant la nuée est au-dessus du tabernacle et la gloire remplit le tabernacle. Le Dieu qui était sur la montagne est venu au milieu du peuple. Et on voit que le peuple ne pouvait pas s'approcher de la montagne, mais Dieu s'est approché du peuple. Et on voit avec cet épisode 40, ce chapitre 40, que la présence de Dieu n'est pas confinée à la montagne. Mais la présence de Dieu suit partout le peuple où il va, parce qu'elle est sur le tabernacle. Dieu accompagne le peuple partout où il va. Et à la fin de l'Exode, on a ce Dieu transcendant qui devient immanent, ce Dieu qui nous dépasse, qui devient proche. Et quand je me suis imaginé un peu le sentiment qui devait habiter le peuple, je me suis dit, le peuple devait avoir un sentiment mitigé, un peu mélangé, avec d'un côté une certaine crainte d'un Dieu si grand. Ce Dieu et cette nuée qui vient remplir le tabernacle, c'est le même que celui qui faisait fumer, trembler la montagne. Une certaine crainte d'un Dieu si grand et en même temps, une grande joie d'un Dieu si proche. Ce grand Dieu est venu à notre portée. Ce grand Dieu s'est approché de nous. Et tout le livre de l'Exode nous montre ces deux facettes de Dieu, sans jamais les opposer. Un Dieu à la fois puissant et saint, mais aussi personnel et proche. Et on a vu tous les échos de l'Exode dans la Bible. On a vu la manière dont la Bible nous présente encore et encore et encore un Dieu qui prend l'initiative de venir à notre rencontre. Un Dieu qui se met à notre portée. Et l'Exode nous rappelle qu'on ne va pas rejoindre Dieu. On ne va pas visiter Dieu. On ne va pas rejoindre Dieu quand on vient dans l'église. On ne va pas visiter Dieu quand on vient à l'église comme on visiterait une vieille tante. C'est bien de visiter les vieilles tantes. Mais Dieu est présent. Dieu est présent aujourd'hui. Dieu est présent maintenant. Dieu est présent tous les jours. Partout. Et cette nuée au-dessus du tabernacle, elle montrait la présence de Dieu auprès du peuple et constamment. Lorsque le peuple levait les yeux, il voyait Dieu au milieu d'eux. Verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leurs étapes. À chacune de leurs étapes, Dieu est là. À chacune de leurs étapes, quand le peuple lève les yeux, Dieu est là. Et cette nuée de Dieu manifeste sa présence, mais aussi sa providence. Le peuple dit, quand la nuée s'élevait, le peuple partait. Mais il dit aussi, si la nuée ne s'élevait pas, le peuple restait. Et un peu plus loin dans le livre des Nombres, Moïse précise, il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Ils observaient le commandement de l'Éternel selon l'ordre que l'Éternel donnait à Moïse. Encore une fois, on voit que le peuple suit Dieu, que le peuple entend et obéit à sa parole. Mais ce n'est pas une parole lointaine. C'est une parole proche parce que Dieu est avec eux, parce que Dieu les précède, parce que Dieu les accompagne. Et on voit que c'est la parole de Dieu qui dicte leur marche. Littéralement. Et on a fait souvent le parallèle entre le livre de l'Exode et nous aujourd'hui, où nous aussi nous avons la parole de Dieu qui nous guide et qui nous conduit. Et on voit le peuple qui est dépendant de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, tout au début de l'Exode, au chapitre 4, Dieu avait dit au Pharaon, « Israël est mon fils, mon premier-né. » Israël est mon fils, mon premier-né. Et on avait vu que Dieu traite le peuple comme son propre enfant. Et bien sûr, on avait vu les échos, encore une fois, avec le fils premier-né de Dieu, Jésus. Et on voit que là, comme un père guide son enfant, Dieu guide Israël. Il les accompagne. Il est présent au milieu d'eux. Il les précède. Il les éclaire de jour comme de nuit. Il les protège du danger et il leur donne leur nourriture. Et encore une fois, on voit que tout ce dont le peuple a besoin, il le trouve dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que l'on trouve tout ce dont on a besoin. Au milieu du désert, dans une région hostile, Dieu les accompagnait. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est lever les yeux à Dieu et le suivre. Suivre Dieu quand il partait, rester avec Dieu quand il restait. Et nous aussi, la seule chose que nous ayons à faire, c'est nous laisser guider par Dieu. Lever les yeux et le contempler, écouter sa voix. Mais parfois, les circonstances, peut-être comme ça a dû être le cas à de nombreuses reprises, nous font douter de la présence ou même de la volonté de Dieu. Vous vous rappelez cet épisode où le peuple suit Dieu et il se retrouve face à la mer et derrière eux, il y avait l'armée du Pharaon. Ils avaient suivi Dieu. Ils avaient suivi Dieu jusqu'à ça, jusqu'à une impasse. Et Dieu avait dit, restez tranquille et regardez. Attendez que je vous délivre. Peut-être certaines fois, les circonstances, nous aussi, nous font douter de la direction de Dieu, nous font douter même de la présence de Dieu, nous font douter qu'il nous guide ou nous font douter qu'il nous précède. Ou parfois, c'est notre propre volonté. On dit, Seigneur, tu me fais passer par là, mais moi, je connais un petit chemin là-bas. C'est un petit raccourci. J'arriverai avant toi. À mon avis, tu te trompes sur ce coup-là. Mais Dieu connaît notre chemin. Il sait quand nous devons nous arrêter. Il sait quand nous devons repartir. Il sait tous les endroits et tous les chemins par lesquels nous devons passer. Et nous avons l'assurance que aucun des chemins que nous empruntons, aucune de nos étapes n'est une erreur de parcours, parce que Dieu est toujours au contrôle. Parmi les plus beaux chapitres de l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, il y a les chapitres qui parlent de la providence. Et je vous en lis un extrait. Quand gros nuages noirs brouillent le ciel et qu'une tempête se met à souffler, et qu'il n'y a qu'obscurité devant nos yeux et le bruit du tonnerre dans nos oreilles au point de nous terrasser de frayeur, il nous semble que tout est bouleversé et confus. Mais au ciel, tout est calme et paisible. Je pense que Jean Calvin avait pris l'avion, il avait vu un peu, quand il y a des orages, on va au-dessus des nuages et tout est calme et tranquille. Je continue la suite. Soyons donc certains, lorsque les choses sont troublées dans le monde, au point de nous faire perdre raison, que Dieu, qui est loin de nous dans la clarté de sa justice et de sa sagesse, sait bien diriger de telles confusions et les conduire à une bonne fin. Quant à nos yeux, tout est bouleversé. Quand à nos yeux, il n'y a qu'obscurité, tempête, bruit, fracas, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait où nous allons. Dieu sait pourquoi il choisit de nous faire passer par cette tempête. Et Dieu sait que passer cette tempête nous fera du bien, parce que c'est lui qui l'a choisi. Et parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien. La doctrine de la providence, cette idée de la providence, c'est non seulement la souveraineté de Dieu qui dirige son peuple et qui le conduit et qui est maître sur tous les événements, mais aussi le soin paternel de Dieu. Dieu prend soin de ceux qui l'aiment. On l'a dit tout à l'heure, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent dans le psaume 145. Il garde tous ceux qu'il aime. C'est ce que nous voyons encore ici. Il garde son peuple et il lui donne tout ce dont il avait besoin. C'est l'assurance que Dieu prend soin de nous et que rien n'arrive par hasard, que rien n'arrive dans une espèce de fatalité aveugle, ou que certaines choses sont indéterminées. Non, tout est voulu par Dieu et dans tout, Dieu prend soin de nous. Tout nous vient de la main paternelle de Dieu. J'ai lu dans un commentaire, on parlait de l'admiral Nelson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme. Non ? L'épreuve d'histoire ? Non, JD n'est pas là. Lukansky, peut-être qu'il avait entendu. L'admiral Nelson, pour ceux qui le connaissent, peut-être, il est connu pour avoir gagné la bataille de Trafalgar contre Napoléon. C'était une bataille maritime. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon que les Anglais ont bien surpris les Français, d'où l'expression « coup de Trafalgar ». Ça vient de là. Et l'admiral Nelson était connu pour être un grand stratège, un grand homme de guerre, mais aussi un très bon leader. Et tous les hommes qui étaient sous ses ordres soulignaient le soin qu'ils recevaient de lui. Et tous les hommes qui étaient à sa suite soulignaient la joie qu'ils avaient à le servir. Et dans une des lettres, un des gradés qui a servi avec lui, Sir Robert Stopford, écrit dans sa lettre « Nous sommes à moitié morts de faim. » Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça n'a pas l'air terrible. À moitié mort de faim et bien dérangé par une si longue période en mer. Mais notre récompense est d'être avec Nelson. Il avait tellement de joie à suivre cet homme qui prenait soin de ses troupes que même au milieu de la mer, même à moitié mort de faim, même après avoir quitté le port depuis de nombreux mois, peut-être des années, il pouvait dire à ce moment-là, ma récompense et d'être avec Nelson. À combien plus forte raison nous pouvons dire, lorsque nous sommes à moitié morts de faim, ou peut-être terrassés par les épreuves, que nous sommes las de tout ce que nous vivons, de dire, notre récompense est d'être avec Christ. Christ est là. Christ est tout ce dont j'ai besoin. Dans la tempête, il est là. Il me précède. Et il me donne ce dont j'ai besoin et j'ai l'assurance. Non seulement qu'il est là dans la tempête, mais qu'il la dirige. Et que rien n'arrive sans qu'il le décide. Et que tout arrive pour mon bien. Christ est là dans la tempête. On a vu que le livre de l'Exode nous donne une connaissance approfondie de Dieu. C'est parfois un peu troublant. En tant que prédicateur, on veut des choses pratiques, on veut des choses concrètes. Et le livre de l'Exode nous invite beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'adoration. Et parfois, la seule chose concrète qu'on peut faire, c'est adorer Dieu, en écoutant sa parole. Quand sa parole nous décrit avec beauté sa gloire, sa puissance, sa grâce, sa miséricorde. Et on a vu aussi que tout le livre de l'Exode pointe vers Jésus. Vous vous souvenez, souvent, on a fait les parallèles avec Jésus. On a vu, lors de la sortie d'Égypte, la manière dont l'agneau qui a été tué à la Pâque pointait vers Jésus, le substitut, celui qui prend notre place à la croix. Et parce qu'il prend notre place, nous n'avons pas à mourir et nous avons la vie sauve. On a vu aussi que Moïse a bien des reprises pointé vers le médiateur parfait. Moïse intercédait entre Dieu et le peuple. Et on a vu la manière dont Christ intercède pour nous aujourd'hui. Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et on a vu aussi le tabernacle, le lieu où Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Et on a vu qu'après le tabernacle, il y a le temple. Et qu'après le temple, il y a Jésus qui vient habiter au milieu de son peuple. Et qu'ensuite, il y a l'Esprit qui vient habiter en nous, qui vient habiter dans l'Église, et qui fait de nous sa demeure. Et on a vu là qu'un jour, la gloire de Dieu descendra pour remplir la terre, et que toute la terre sera remplie de sa gloire, que sa présence sera parfaite, et que nous serons pour toujours avec lui. En attendant, on a aussi vu que souvent on est comme ce peuple, on est souvent impatient, on veut des résultats rapides. Et c'est tout le temps ça. Si vous regardez les articles de magazines, c'est tout le temps des recettes rapides avec des résultats rapides. Mais le problème, c'est que les résultats durent aussi longtemps qu'on a mis à les mettre en place. On a vu que le peuple était centré sur lui-même. On a vu que le peuple était oublieux. Parfois, on a vu, peut-être de manière condescendante, je dois l'avouer, comment le peuple très vite se détournait de Dieu. Il dit, mais c'est pas possible. Ils viennent d'être délivrés. Ils viennent de voir la puissance et la gloire de Dieu les délivrer de la main des Égyptiens. Ils ont vu Dieu à l'œuvre avec les 10 plaies. Ils ont vu Dieu à l'œuvre quand il a mis la mer à sec et les a fait passer. Et quelque temps après, ils murmurent contre Dieu. Et nous aussi, nous murmurons contre Dieu. Et le livre qu'on va commencer la semaine prochaine, juste après le livre de l'Exode, c'est la première épître de Pierre. Et dans cette première épître de Pierre, on va entendre encore une fois beaucoup d'échos d'Exode. Il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de thèmes que l'on va retrouver. Et notamment, Pierre nous parle de notre séjour sur terre. Pierre dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Et nous montre de quelle manière notre propre histoire fait écho à l'histoire de l'Exode, où nous aussi nous avons été délivrés de la servitude, de l'esclavage du péché. Nous aussi nous sommes en chemin vers le pays promis. Nous sommes en chemin vers l'héritage, vers la promesse. En attendant, nous sommes parfois dans le désert. Et parfois, nous sommes tentés de retourner en Égypte. Et Paul, dans une autre épître, nous dit que l'histoire du peuple d'Israël a été écrite pour nous servir d'exemple, ou plutôt pour nous servir d'avertissement. Que l'histoire du livre de l'Exode doit nous aider à vivre notre propre pèlerinage. Et que ce qui est arrivé aux Israélites a été écrit pour nous. Et de la même manière, ce matin, nous aussi nous connaissons la présence et la providence de Dieu. Dieu est présent par son esprit. Et Dieu nous conduit par son esprit. Le Dieu de gloire nous accompagne. Je vais prier. Père céleste, Dieu éternel, nous arrivons à la fin de ce livre et nous avons vu comment tu es descendu dans toute ta gloire dans le tabernacle. La manière dont tu étais présent au milieu du peuple. La manière dont tu le dirigeais, tu le guidais. La manière dont tu prenais soin de lui. La manière dont tu les accompagnais dans toute ta gloire. Et Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé et tu continues de nous guider, tu continues d'être présent, tu continues de prendre soin de nous. Et Père Céleste, merci parce que nous pouvons te suivre sans crainte. Nous pouvons te suivre avec confiance car nous savons que tu prends soin de nous. Et que tous les chemins par lesquels tu nous fais passer, c'est pour notre bien. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Et cette année encore, nous voulons te suivre, individuellement et en Église. Nous voulons lever les yeux vers toi, nous voulons nous attendre à toi et nous voulons écouter ta parole. Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire parce que nous savons que tu nous guides, nous savons que tu nous précèdes et nous savons que tu prends soin de nous. Et Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas sauvés, tu ne nous as pas laissé nous débrouiller, mais tu nous as sauvés pour que nous soyons auprès de toi. Et Seigneur, merci parce que tout ce livre de l'Exode nous montre à la fois ta puissance, ta gloire, mais aussi ta miséricorde, ta grâce, ta proximité. Merci parce que tu t'es approché de nous en Jésus. Merci parce que tu t'es mis à notre portée. Merci parce que tu es venu nous chercher, tu es venu nous délivrer. Et merci parce que tu continues d'être présent jour après jour, partout où que nous allions. Et Seigneur, en Église, nous voulons te dire notre souhait d'être dépendant de toi. Notre souhait de nous attendre à toi, notre souhait de nous soumettre à toi. Et nous voulons chanter ta bonté et ta grâce, Seigneur. Que ta gloire soit exaltée dans nos vies personnelles et dans la vie de l'Église. Que tout ce que nous faisons en Église puisse chanter la gloire du Dieu vivant et vrai qui s'est approché de nous. Amen.